Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter.
En direct du studio 611, une émission réalisée par Pierre Jabot, assistée de Karen Dehaye, avec à la technique aujourd'hui Julien Chabassu et Guillaume Roux.
Au sommaire cette semaine, déradicaliser les esprits et le loup à corps et à cri.
Et puis je me suis retrouvé du quartier, dans un camp d'entraînement, les armes à la main face à Osama Ben Laden. En même pas 2 semaines. Ça fait bizarre, hein. Ça fait vraiment bizarre.
Le loup, c'est un peu comme en ville le terrorisme. T'es. On comprend pourquoi les Indiens ils en sont débarrassés.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits du coup ?
À l'heure où les opposants à l'état d'urgence et à la déchéance de nationalité manifestent à Paris et un peu partout en France, une manifestation qui se déroule 3 jours après que le Conseil d'État ait rejeté le recours de la Ligue des droits de l'homme demandant la levée de l'état d'urgence, et alors que le gouvernement a l'intention de prolonger cet état d'exception de 3 mois supplémentaires, ne pas céder. Parce que ceux qui, au nom de Daesh, ont fait subir à Paris et à Saint-Denis un moment d'inhumanité absolue, ne nous feront pas céder, clament les manifestants. Rien ne peut justifier ces assassinats, ici ou ailleurs. Ce crime est immense, mais c'est en continuant à vivre librement et fraternellement que notre réponse sera à la hauteur. Sera à la hauteur. Et c'est justement à cette même conclusion qu'en arrive Mourad Benchelali, après un engagement en Afghanistan, dans les rangs d'Al-Qaïda, et plusieurs années de prison, notamment à Guantanamo. Vivant-il a suivi sa rencontre avec des jeunes de Gennevilliers la semaine dernière. Charlotte, pour sa part, nous emmènera après dans le Cosmejan, où sévit un autre état d'urgence. Mais cette fois, c'est le loup, le vrai. L'animal, celui qui a des grandes dents et qui fait peur aux enfants, et qui est au cœur des tensions, et qui pose à sa façon la question du vivre ensemble avec les loups.
Antoine Chao.
Charlotte Perry.
Guillaume.
Elle avait 17 ans. Le vendredi, elle a téléphoné. Je lui ai dit, ouais, t'es où ? Dis-moi, t'inquiète. Je le dirai pas, ça reste entre nous. Et elle m'a dit, je suis en Syrie.
Des familles qui témoignent et disent leur douleur de n'avoir rien vu, rien compris. Le gouvernement français vient de lancer cette campagne de spots télévisés pour sensibiliser les Français sur le départ de jeunes partis faire le djihad en Syrie ou en Irak.
Ils te disent, sacrifie-toi à nos côtés, tu défendras une juste cause.
En réalité, tu découvriras l'enfer sur terre et mourras seul, loin de chez toi.
Le gouvernement multiplie les initiatives pour enrayer la vague de départ vers la Syrie. 1300 Français sont à ce jour impliqués dans des filières djihadistes.
Reste à savoir si ce type de démarche de la part du gouvernement est susceptible de fonctionner.
Déradicalisation, c'est le terme retenu pour le grand plan du gouvernement depuis le site Stop Djihadisme pour ceux qui seraient tentés par le départ jusqu'au programme lancé cette semaine dans les prisons pour ceux qui reviennent du djihad. Mais déradicalisation, il aime pas ce terme, il a sans doute raison, pas plus que celui de repenti qui lui est régulièrement associé. Lui, c'est Mourad Benchelali, que vous avez sans doute déjà vu ou écouté, un Français qui s'est retrouvé dans les camps d'Al-Qaïda en Afghanistan, puis dans les geôles antiterroristes de Guantanamo, puis dans les prisons françaises. Quelqu'un qui est maintenant engagé corps et âme dans la prévention des départs au djihad, en allant raconter son parcours, ses erreurs et les leçons qu'il en a tirées. À l'heure où la déradicalisation devient le mot d'ordre national, une incantation ou un élément de langage pour tempérer les messages du tout répressif, Mourad n'a pas attendu, il prend sur son temps de travail d'éducateur bénévolement pour nouer le dialogue, désamorcer des tentations ou juste témoigner. Et pour cela, il n'est pas mandaté ni chapeauté. S'il est parfois auditionné par le Sénat ou le Premier ministre, sans vraiment être écouté, c'est dans le pays réel qu'il part s'exprimer. Et c'est pourquoi nous allons le suivre à Gennevilliers et l'écouter, parce que lui, qui s'est tellement trompé à 19 ans, peut peut-être nous éviter, nous aussi, quelques erreurs.
Bonjour.
Bonjour.
C'est comme un bruit qui court.
D'accord. Ouais. Leïla, je travaille au service jeunesse, je suis chargée des actions liées à la citoyenneté. Là, on est à Gennevilliers, à l'espace Nelson Mandela. C'est un espace municipal dédié aux jeunes de 16 à 25 ans de la ville. Et aujourd'hui, on accueille, dans le cadre d'une conférence débat, Mourad Benchelali et Christiane Boudreau. Ils vont nous parler de la radicalisation. Mourad, il a passé 3 ans à Guantanamo, après avoir passé du temps dans des camps d'entraînement en Afghanistan. Christiane Boudreau, son fils, est parti en Syrie. Il est mort là-bas. Donc c'est le genre de témoignage, c'est du vécu, c'est du concret. Là, on les palpe, les choses. Et forcément, quand on est jeune... C'est des choses qui ont plus d'impact que d'écouter un discours d'experts, de spécialistes, des discours très théoriques. Des experts, on en voit plein, on en entend partout. Tandis que là, c'est des gens qui ont vécu ces sujets de près.
C'est pas la première fois qu'à Gennevilliers, une telle rencontre est organisée.
En fait, on a invité Mourad l'année dernière, au mois de mai. C'était après les attentats de Charlie Hebdo. Il y avait eu beaucoup de monde. Enfin, la salle était pleine, les jeunes en parlaient, ceux qui ne pouvaient pas venir en discuter. Et donc on s'est dit, ben là, voilà, bon, on va le faire revenir en choisissant de discuter spécifiquement de ce thème-là, de la radicalisation.
La radicalisation, un phénomène complexe à décrypter. Repenti, victime ou terroriste en puissance, pour déradicaliser les candidats au djihad.
Manuel Valls a donc annoncé hier le lancement d'un centre pour jeunes radicalisés.
Il y a deux centres de déradicalisation.
Des centres de déradicalisation.
And looking for signs of radicalization.
Vous êtes venu pour assister à la conférence ? Alors, d'abord, je vais demander, je vais faire la brochette des demoiselles qui sont assises presque au premier rang, arrivées les premières, avec vos prénoms.
Kenza.
Leïla.
Lisa.
Feriel.
Maëlys.
Et vous avez quel âge ? Parce que vous avez à peu près le même âge toutes.
16-17 ans à peu près.
Voilà.
Vous êtes de Gennevilliers ?
Oui. Alors, il nous a dit qu'il y avait une présentation d'une dame, son fils, c'est par rapport à la radicalisation. Son fils, il a été en Syrie, et un monsieur qui vient de Guantanamo.
On voulait savoir comment ça se passait là-bas et connaître son histoire, en fait.
À nous, ça nous choque un petit peu parce qu'on est des filles de banlieue, on fréquente des gens de banlieue, on ne nous a jamais parlé de radicalisation. L'islam, on le pratique normalement, quoi. On n'est pas des extrémistes. Donc on ne comprend pas parce qu'on ne connaît aucune personne qui est radicalisée.
Et qu'est-ce que vous avez dit en apprenant, comme tout le monde, le 13 novembre dernier, les attentats ?
Ça m'a choquée. Ouais. Franchement, on a été vraiment choquées.
Choquée.
Angoissé aussi parce que c'est près de chez nous. Nous, on habite à Gennevilliers, on n'est pas loin de Paris. Et voilà, on avait peur aussi. Que là, ça a vraiment touché tout le monde.
Et nous, en tant que musulmans, on a cette double pression. En fait, on a peur, comme tout le monde, des attentats, des terrorismes. On a aussi peur des répercussions que ça peut avoir sur nous. Oui, c'est des musulmans, des terroristes. Donc forcément, ça fait peur dans les deux cas. Un jour, on revenait de la mosquée et on a croisé un monsieur qui nous a dit « Ah, mesdemoiselles, vous êtes jolies. Retournez en Syrie, Bachar el-Assad vous accueillera. » C'est quotidien, on dirait qu'on... Enfin, je sais pas, je comprends pas. On nous accepte pas comme si... ça fait longtemps que les musulmans sont en France, il n'y a jamais eu de problème, et aujourd'hui, on nous pointe du doigt.
Faut bien taper sur quelqu'un, en fait. Bah là, c'est nous.
Et donc, du coup, vous faites des cours comme ça d'instruction civique et politique ?
Pas des cours, mais on fait des débats avec nos professeurs, on parle beaucoup. Comment ?
Dites en russe.
Voilà. C'est l'intello de la bande, c'est ça ?
Philosophe de la bande.
Ouais.
Ah si, quand même, t'es assez philosophe.
C'est Nordine, c'est ça ?
Ouais, c'est Nordine, ouais.
D'accord.
Du service jeunesse. Non, je déconne, je les connais bien parce que c'est un très bon groupe de jeunes.
Bah là, elles sont en avance, elles sont les premières, au premier rang.
C'est ça, premier rang.
Les cinq demoiselles. Ouais, les garçons, ils arrivent plus tard, c'est ça ?
Les garçons, c'est soit ils arrivent très très tard ou soit ils arrivent pas du tout. Ouais, ils sont moins concernés par toutes ces questions-là. Ces jeunes filles-là maîtrisent les codes pour justement assister à ce genre de conférences. On a d'autres jeunes qui sont plus en marge et qui ont un peu du mal à assumer leur présence. Donc on essaye aussi de les toucher, mais par d'autres moyens. On fait aussi des choses dans les quartiers, des discussions, des projets, des films. Donc on en parle de façon très tranquille, en discutant avec les jeunes, les risques de radicalisation.
Bon, bah écoutez, bonne conférence, d'accord ?
Et justement, de ces jeunes gars qui rasent les murs et qui aiment pas trop parler, il y en a justement quelques-uns qui sont venus. Et Nordine arrive à les attraper, ceux-là qui sont même les cibles de la Daesh, ceux qui n'ont pas accès et pas accessibles aux messages officiels.
Non, t'inquiète pas, on va juste parler.
Moi, je suis pas dedans, je veux pas. T'es ni photo, ni vidéo, rien.
Tu vois, c'est de la radio, t'en fais pas.
Il a peur de tout ce qui est journalisme, télévision, tout ça. Il réfute complètement l'idée de l'information.
Je parle pas.
Bonjour Elias. Elias, approche-toi parce qu'il faut qu'on t'entende. Calme-toi Elias. Elias, on voulait juste connaître.
Pourquoi t'es venu en fait ? Qu'est-ce que t'es venu écouter ce soir ?
Je suis venu pour écouter le prisonnier de Guantanamo et.
Mourad Benchelali.
Voilà, et bah, je suis venu pour écouter, mais je suis pas pour le djihad et je suis contre. Non, c'est quoi là ? C'est quoi
qui. Est-ce que tu as déjà vu des vidéos de propagande ?
Ils en voient toujours.
Voilà, il en voit tous les jours. On a un sujet très important.
Je voudrais adresser un message à la communauté musulmane vivant encore en France.
Faites exploser la France. Réduisez la France en miettes.
À l'instar de la défense de votre religion démocratie, nous défendrons notre religion qui est l'islam.
Wallahi par Allah, votre sang ne cessera de couler, car nous avons chez vous des hommes prêts à sacrifier leur âme.
Sacrifiant pour Allah celui que nous glorifions. Pour Allah, oui, nous vous terrifions. Pour Allah celui que nous unifions. Pour Allah, nos vies nous les sacrifions. Pour Allah celui que nous glorifions. Pour Allah, oui, nous vous terrifions.
Alors très bien, bonsoir. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Alors on continue le cycle habituel de conférences à l'espace Mandela. Ce qui est important, c'est que Christiane et Mourad vont intervenir. Ils vont nous raconter un petit peu leur parcours. Et l'idée, c'est qu'il y ait un échange. Après, on puisse discuter, poser des questions. Mourad Benchelali, lui, la particularité qu'il a, c'est qu'en 2001, il est parti en Afghanistan, dans un camp de Al-Qaïda. Et il s'est retrouvé à Guantanamo. Voilà, j'en dis pas plus. Mourad, je te passe un micro. Voilà.
Bonsoir. Je vais essayer de vous raconter mon parcours, mais rapidement. C'est un parcours qui est très compliqué, mais je vais essayer de le faire du mieux possible. Alors, moi, je me suis retrouvé à Guantanamo, il y a longtemps, maintenant. Mais la question que vous vous posez, évidemment, c'est comment j'en suis arrivé là. Moi, j'avais 19 ans, à l'époque, et j'ai pris la décision de partir en Afghanistan.
Nous sommes dans la banlieue lyonnaise.
Vénissieux, cité des Minguettes.
Mourad Benchelali y a vécu jusqu'en juin 2001.
Direction l'Afghanistan, poussé par son frère qui lui fait miroiter l'aventure.
Puis il m'a rassuré en m'expliquant que ce qu'on montrait à la télé sur les talibans, c'était pas forcément la réalité. Et moi qui n'étais jamais sorti du quartier. Et puis il me dit, moi je m'occupe de tout, tu t'occupes de rien. Et donc j'accepte, je lui dis ok.
Il imagine alors des vacances, il a 19 ans.
Alors je sais que c'est très naïf, c'est très inconscient, mais c'était vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et je pars. Et ils nous ont emmenés dans la ville de Kandahar.
C'est quelque part là-bas qu'en 2001, ils s'entraînent dans les camps d'Al-Qaïda.
On va vous apprendre les armes, vous allez faire une formation militaire. Et puis de toute façon, dans la religion, une formation militaire, c'est obligatoire. C'est comme ça, c'est le prophète qui l'a dit, que chaque musulman, il doit savoir manier les armes. Et c'est une formation qui va durer 60 jours.
Deux mois passés sur un camp d'entraînement d'Al-Qaïda, où ils croisent Ben Laden, sans même savoir qui il est, dit-il.
Et puis je me suis retrouvé du quartier, des Minguettes. En même pas deux semaines, dans un camp d'entraînement, les armes à la main face à Osama Ben Laden. En même pas deux semaines. J'étais même pas parti pour faire la guerre. Du quartier d'en bas de ma tour, ça fait bizarre, hein. Ça fait vraiment bizarre.
Et la spirale ne s'arrête pas là, car le 11 septembre change la face du monde. Mourad est au pire des endroits, au pire des moments.
Au bout de 60 jours, l'entraînement se termine. Et à ce moment précis où on arrive, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le 11 septembre.
Le 11 septembre va faire basculer son destin.
Le camp est bombardé, il pense recouvrer enfin sa liberté car les talibans fuient.
Mourad Benchelali fuit vers le Pakistan.
Il part au Pakistan où il est vendu aux autorités américaines.
Alors moi quand je vois les Américains, je suis content. Je dis c'est une grande démocratie, c'est les Américains, tout ça, je vais leur montrer mon passeport français et puis ils vont me laisser rentrer chez moi. Le problème c'est que ça va pas se passer comme ça.
Commence alors une longue détention.
Direction Guantanamo, où le piège se referme sur lui.
Guantanamo, où il reste emprisonné durant 2 ans et demi.
2 ans et demi dans les prisons de Guantanamo, avec son lot de torture et d'humiliation.
Donc, Guantanamo, je ne veux pas m'attarder, hein. Je vais y rester près de 3 ans. Guantanamo, c'est la tenue orange, c'est les cages, c'est les interrogatoires, les privations de sommeil, c'est fait d'être menotté dans des positions douloureuses, vous jette de l'eau froide avec la climatisation à fond, ou ça peut être l'inverse, le chaud, le froid, la musique, on peut vous laisser toute une nuit avec la musique des grosses enceintes dans les oreilles et des flashs de lumière dans les yeux, enfin voilà, c'est plein de techniques comme ça, puis des interrogatoires surtout, des équipes qui se succèdent, qui nous posent toujours les mêmes questions, pourquoi vous êtes parti en Afghanistan, pourquoi t'es parti chez Al-Qaïda, et ça va durer comme ça pendant 3 ans, près de 3 ans.
Emprisonné plus de 2 ans à Guantanamo.
Enfermé à Guantanamo pendant plus de 2 ans.
Il est finalement relâché. Les Américains ne lui reprochent rien.
Du jour au lendemain, un militaire vient vers moi et me dit « Tu vas rentrer en France. » Alors moi, quand je suis dans l'avion, je suis content. Je me dis « Ça y est, c'est la fin du cauchemar. » Mais là encore, les choses, elles se sont pas passées comme ça.
Quand il revient en France, c'est encore la prison qui l'attend. Condamné à 18 mois pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.
On a arrêté mon père, on a arrêté ma mère, on a arrêté une de mes sœurs, on a arrêté mon autre frère. Et ça va durer comme ça pendant 2 ans.
Aujourd'hui, Mourad Benchiladi mène un nouveau combat.
L'homme est aujourd'hui un repenti, très actif sur le terrain.
Il lutte contre la tentation du djihad chez certains jeunes.
Quand j'étais à Fleury, il y a des jeunes qui venaient vers moi qui me disaient « Mourad, machallah, c'est bien, t'es un bonhomme, t'es parti faire le djihad, c'est bien et tout. Et moi, quand je vais sortir, machallah, je vais faire comme toi. Je vais aller combattre. » Et donc, quand ils me disaient ça, je comprenais qu'il y avait un problème. Et je leur ai expliqué, je leur ai dit non, c'est pas aussi simple que ça. J'ai compris que j'avais une responsabilité aussi dans la façon de raconter mon histoire. Et c'est dans le prolongement de tout ça que je me suis retrouvé à témoigner et que je suis là ici aujourd'hui à vous parler. Voilà.
Merci Mourad. Ça vous a glacé, hein? Merci. Merci Mourad.
Aujourd'hui, il est engagé dans la lutte contre le djihadisme.
Il est devenu formateur spécialisé dans l'insertion et dans la déradicalisation.
Pour dissuader les jeunes de partir combattre, Mourad Benchelali a décidé de raconter son histoire. Une histoire qui sonne aujourd'hui comme un avertissement.
Ryan. Et toi?
Yanis.
Vous avez quel âge?
17 ans. 17. C'est notre animateur qui nous a ramenés et on se sent concernés.
Pourquoi?
Parce que c'est notre religion et que... ça fait du bien d'écouter ce qui se passe et d'être vigilant.
Ouais, le fait que ce soit Mourad qui parle de cette histoire de radicalisation et de déradicalisation, c'est pas pareil que si t'entends un expert qui t'en parle à la télé.
Bah ouais, on se sent plus proche. Enfin, on a l'impression que ça arrive qu'aux autres, mais en fait, ça peut être notre cas de partir comme ça et de pas faire attention à ce qui se passe.
Et alors que tu dis en tant que musulman, parce que tu te poses des questions ici en tant que musulman.
Je me pose des questions, mais... je sais pas comment expliquer, enfin, je suis musulman mais je suis pas très très religieux du coup, enfin, je me sens concerné mais ça me touche pas finalement parce que je sais que ma religion elle est propre et que je suis pas de cette communauté là qui va faire n'importe quoi et qui va suivre notre chemin.
Voilà. J'ai une question pour
ceux qui étaient là un peu pour voir ce qui se passe de loin sans trop rentrer dans la salle et qui s'en vont une fois que le débat continue. Vous allez faire quoi là maintenant? Vous allez rester pour écouter les questions ou là vous partez?
Moi j'ai entraînement, j'ai foot. Du coup je suis obligé de partir mais c'était vraiment très intéressant et très émouvant sinon on serait pas là.
Bonne soirée. Allez.
Salut.
Christiane Boudreau qui est là, elle nous vient du Canada. Et Christiane Boudreau a malheureusement perdu son fils en Syrie. Elle va nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et comment elle a vécu tout ça. À toi Christiane, merci.
Pour moi c'est différent. Ça arrivait à mon fils. Mon fils a converti à l'islam en 2008, en novembre 2012. Et il est parti pour Syrie. Il me disait encore, maman, je suis là pour aider les femmes et les enfants contre Bachar al-Assad. Mais j'ai dit, Damien, faut que tu retournes avec moi. On peut faire plus ici au Canada pour aider les femmes et les enfants. Pas là. Je pouvais écouter tous les fois que je parlais avec lui, tous les bombes et tous les fusils dans le téléphone. Ça me tuait. Mon cœur dedans. Il est décédé maintenant. Il peut aider qui? Personne. C'est fini pour lui. C'est aussi fini pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai rencontré d'autres mamans après ça. Leurs fils sont partis aussi, décédés aussi. Tous les jours, je pense, c'est mon fils. Et je ne savais pas. Et je ne savais rien. C'est mon bébé. Il est décédé. Je ne peux rien faire pour lui. C'est fini.
Merci Christiane. Merci.
Ça se passe dans le centre Nelson Mandela, à Gennevilliers, pour accueillir les jeunes. Une petite salle de réunion, une estrade, un banc, deux témoins qui sont dessus, Mourad Benchelali, ancien détenu de Guantanamo, et Christiane Bourdeau, mère d'un garçon Damien, qui est parti faire le djihad et qui est mort en Syrie. Et dans la salle, il y a des jeunes, majoritairement, et on écoute religieusement ce qui est en train de se dire. Les témoignages ont été brefs, mais denses. Et maintenant, c'est les questions. Les questions sur comment, les questions sur pourquoi, le djihadisme, la radicalisation. Et l'amorce d'une réflexion chez ceux qui sont souvent montrés du doigt, comme la cinquième colonne, c'est-à-dire notre jeunesse multiculturelle des banlieues. Manque de poésie, on est à Gennevilliers, et manque de poésie, on écoute et on réfléchit. Comme un bruit qui court, jusqu'à 17h, sur France Inter. Comment déradicaliser ?
Des questions ou pas, là ? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, là, pour... Il est 8h15, presque 2h, là, qu'on discute. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire pour conclure ? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, en tout cas, aux jeunes Gennevillois ?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est que d'autres jeunes se laissent pas embarquer vers la Syrie ou d'autres terres de djihad. Moi, c'est mon souci principal. Et je témoigne en ce sens. Comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de similitudes entre l'Afghanistan d'hier et la Syrie d'aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai envie d'expliquer aujourd'hui aux jeunes. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'être foncièrement mauvais pour se retrouver dans un camp d'entraînement ou de se retrouver même sur un champ de bataille. Il peut y avoir des circonstances un peu compliquées. Une crise d'ado, j'en sais rien, un coup de colère face à une vidéo de victime. On peut être bien intentionné, comme le fils de Christiane, avoir beaucoup d'empathie, se sentir concerné, être révolté. Mais le problème, c'est les conséquences. Et puis, vous savez ce qu'ils me disaient, les Afghans, après le 11 septembre ? Ils me disaient, mais pourquoi vous êtes venus ? Regardez à cause de vous ce que vous avez fait. À cause de vous, le pays, il est en feu, il est feu à sang maintenant. Pourquoi vous êtes venus combattre ? On vous a rien demandé, on était tranquille. Je vous jure qu'ils nous disaient ça. Des gens qui pensaient être venus pour aider, en fait, ils étaient la cause du désordre. Et aujourd'hui, les Syriens, ils disent la même chose. Ils disent, mais venez pas, on ne veut pas de vous. On n'en a pas besoin de vous. La situation est déjà compliquée. Quand vous venez, vous ajoutez au désordre. Moi, ça me rappelle une anecdote. Quand j'étais à Guantanamo, j'ai parlé avec un yéménite. Et il m'a dit, Mourad, toi, quand tu vas rentrer en France, s'il te plaît, raconte que nous, on est ici. Raconte, s'il te plaît, qu'on se fait torturer. Que... Parce que moi, dans mon pays, au Yémen, tout le monde s'en fout. Par contre, toi, dans ton pays, il y a les droits de l'homme, il y a la liberté d'expression, il y a les médias, tout ça. Donc, utilise ces outils pour dénoncer ce qu'on est en train de vivre. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis rendu compte que je pouvais être beaucoup plus utile en France pour dénoncer les injustices, simplement en parlant, en dénonçant. Je pouvais être beaucoup plus utile comme ça qu'en faisant toute autre chose. De surcroît, en prenant les armes. Et ça aussi, ça m'a fait réfléchir. Et puis on n'est pas si mal loti ici, en vérité. C'est facile de se plaindre quand on a vécu que ça, quand on a vécu que la démocratie. Alors on se plaint, on la voit de façon imparfaite. Mais quand je suis revenu, moi, et que je me suis retrouvé face à un juge, j'ai dit, monsieur le juge, je suis content d'être ici. Il n'a rien compris. Il dit, mais il est malade celui-là. Comment il est content d'être ici ? Mais parce que vu de Guantanamo, c'était un luxe. C'était un luxe. Parce que j'avais des avocats, parce que je pouvais me défendre, j'avais des droits. On avait enlevé à d'autres. Donc tout est une question de perspective. Si on regarde France, on n'est pas content de la France. Mais quand on a vécu l'enfer ailleurs, quand on revient en France, on est super content. On se dit, voilà, je suis bien en vérité ici. Tout est une question de perspective, d'où on regarde. Aider les autres, partir en Afghanistan pour aider les autres. Mais ma propre famille, je les ai mis dans la détresse. 2 ans de prison, l'a fait ma mère. Vous imaginez ? Aujourd'hui, elle est expulsée, elle est interdite de venir en France. Interdit définitif de territoire. Quand j'étais à Guantanamo, elle s'inquiétait pour moi. Elle ne dormait pas le soir. Quand elle a regardé à la télé ces images de détenus en orange dans des cages qui se faisaient torturer, elle se disait, mais mon fils, il est en train de vivre ça. Vous imaginez la détresse dans laquelle elle devait être ? L'inquiétude ? C'est à cause de qui, ça ? C'est qui l'a fait souffrir ? C'est à cause de qui qu'elle a payé aujourd'hui ses conséquences ? Et moi, je dois vivre avec. Donc, quand on sait ça, pourquoi je vais en vouloir aux Américains? Pourquoi je vais en vouloir à la France? Voilà toutes les leçons que j'ai tirées et que je voulais vous faire partager.
Merci. Merci Mourad. Merci Christiane. On va rester un peu là, échanger. Si vous avez envie de poser des questions directement, soit à Mourad, soit à Christiane, n'hésitez pas. Et puis voilà, c'était notre but de rencontrer des gens qui ont vécu des choses pour mieux comprendre le monde et pour mieux le changer aussi. Bonne soirée.
Mademoiselle, mademoiselle. Et je voulais savoir, là, je vous ai vu, vous étiez en train d'écouter vachement attentivement ce débat.
Bah, on est ému par le témoignage de la maman, parce que c'est vraiment triste de perdre son enfant quand même. Surtout de savoir qu'il est parti avec
une bonne intention.
Ouais. C'est un peu comme une aventure, en fait, pour eux. Ils explorent un pays, enfin, ils connaissent pas ni la religion, ni tout le pays, en fait. Et à la fin, bah, soit ils se font tuer, soit ils font la guerre. Enfin, c'est choquant, en fait.
Ouais, on se rend compte plus des choses.
Ils sont pas informés, c'est ça le problème. On n'est pas assez informés de ce qui se passe là-bas.
Ça fait bizarre, parce qu'on entend parler de ça à la télé, mais quand c'est quelqu'un en face de nous qui raconte, ça choque.
Et vous allez en parler maintenant? Vous allez raconter ce que vous avez vu aux parents, aux amis
À la famille, enfin à tous ceux qu'on connaît. Vu que personne en vrai connaît les histoires, et on va aussi les informer, parce que c'est toujours bien de savoir, en fait.
Ouais. Ouais, c'est comme ça qu'on commence à comprendre.
Ouais, c'est sûr, ouais.
Bon, bah, et vous allez faire quoi maintenant alors? Il est quoi, 9h du soir? Gennevilliers? Bon, bah, merci beaucoup, rentrez bien.
Merci à vous.
Mourad Benchelali, bonjour.
Bonjour.
Avec votre expérience, avec votre vécu, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans le public ce soir. C'est des jeunes qui sont venus parce qu'ils ont entendu l'histoire et qu'ils mettent dans une disposition particulière.
Alors moi, je n'ai pas la prétention à dire que mon discours a un grand impact. Moi, je partage mon vécu et puis après, si ça peut être utile, tant mieux. J'espère que ça l'est. Je m'identifie beaucoup au parcours de ces jeunes. Ça me touche, ça me fait beaucoup de peine quand j'entends des décès, parce que je suis aussi en relation avec des parents dont les enfants sont en Syrie. Et quand ils m'appellent en pleurant, en me disant bah, « ça y est, Mourad, mon fils, il est parti », ça me fait beaucoup de peine. Et ça me rappelle ma maman aussi. C'est pour ça que je m'identifie, parce que j'ai vécu les souffrances aussi des deux côtés. Et c'est pour ça que je continuerai à le faire, surtout.
Est-ce que, depuis le 13 novembre, que vous continuez toujours autant à aller parler à des jeunes, à des moins jeunes, un peu partout, en France ou en Europe, est-ce que vous avez senti, depuis le 13 novembre, une attention différente, des questions différentes, un accueil différent?
Paradoxalement, j'ai été moins sollicité après les attentats de novembre, beaucoup moins d'ailleurs. Il y a même des désistements dans des écoles où le professeur disait « non, la situation est trop compliquée, je préfère pas te faire venir, finalement c'est plus une bonne idée ». Et j'étais très étonné par ça, comme si finalement on voulait plus être dans le dialogue, on n'en avait plus envie ou c'était plus le moment. Et j'ai trouvé ça très inquiétant. Cet attentat a vraiment posé une espèce de chape de plomb qui a fait que les gens, à cause du traumatisme de cet attentat, considérait que finalement la seule solution, elle ne pouvait être que sécuritaire finalement, et qu'on n'était plus dans le dialogue. En tout cas, que le dialogue n'était plus efficace. Au contraire, il faut être plus dialogué, plus que jamais. C'est plus que jamais nécessaire. Et qu'il ne faut pas en tirer les mauvaises conclusions surtout.
135 personnes rentrées de Syrie et d'Irak actuellement en détention en France. Comment faire pour les empêcher de passer à l'acte à leur sortie de prison? Eh bien, l'administration pénitentiaire lance des unités dédiées. 3 qui ouvrent aujourd'hui à Fresnes, au Nice, dans le Val d'Oise, et puis à Lille.
Ce qui a été annoncé par notre gouvernement et qui doit rentrer en vigueur cette semaine même, c'est les centres de déradicalisation dans nos prisons. Quel regard vous avez-vous là-dessus?
Alors moi, je suis du même point de vue que le contrôleur des prisons, qui explique isoler des détenus considérés comme radicaux et que les mettre tous ensemble, finalement, ils vont s'entraider les uns les autres dans des idées toxiques. Ça n'arrange pas les choses. Et qu'ils vont certainement sortir plus énervés, en réalité, que déradicalisés. Ensuite, moi, ça me rappelle évidemment Guantanamo, cette idée de regrouper les détenus considérés comme radicaux, etc. Alors c'est cohérent dans l'idée qu'on a que l'islam radical, c'est une maladie contagieuse qu'on attrape à proximité de personnes contaminées. Mais le problème, c'est que la réalité, c'est pas ça. Le djihad et tout ça, ce sont des idées. On combat des idées par pédagogie, en expliquant que c'est pas le bon raisonnement et tout ça. On combat pas des idées par la répression, par l'enfermement ou par l'isolement. C'est-à-dire que l'idée force de l'État islamique ou des groupes djihadistes en général. Ils expliquent que la charia est le meilleur modèle et que c'est le meilleur système, le plus juste, qui prône les meilleures valeurs. Et ils utilisent toutes les contradictions ou tous les défauts que peut avoir une démocratie. Et donc Guantanamo, par exemple, ou le Patriot Act, en est la parfaite illustration. Et donc je pense que la meilleure réponse à avoir par rapport à ça, justement, pour couper l'herbe sur le pied à cet outil de recrutement, c'est justement de respecter les valeurs et d'être ferme face à ces valeurs. On défend ces valeurs en les respectant, en réalité. Et moi, j'ai été choqué d'entendre des appels de politique à un Guantanamo à la française ou un Patriot Act. Ça prouve bien qu'on n'avait rien compris. Et donc, c'est toujours pareil. C'est qu'on aggrave le problème au lieu de le régler.
Donc, il y a du boulot encore.
Ouais, je crois qu'il y en a encore beaucoup.
Merci, Mourad Benchalali.
Merci à vous.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Et la justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis un citoyen de France.
Merci à Christiane Boudreau, merci à Mourad Benchelali et à toutes celles et tous ceux de Gennevilliers. Vous pouvez retrouver le livre de Mourad Benchelali, Voyage vers l'enfer, aux éditions Flammarion.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
J'ai pris des céréales pour appeler les brebis, qu'elles me suivent sur les drails. Elles suivent le berger parce qu'elles savent que j'ai quelque chose de bon dans la poche.
Elles sont où là, les brebis?
Dans la bergerie. La nuit, elles sont au chaud. Il y a les gelées blanches la nuit, alors elles sont comme nous, elles sont frileuses. Elles sont mieux dedans que dehors. Et puis maintenant, depuis cet été qu'on a des attaques régulières avec les loups, encore plus besoin d'aller rentrer. Là, en ce moment, c'est plus possible. Il y a quand même eu plus de 100 brebis tuées sur le Cosamégen, quoi. C'est énorme.
Vous avez eu des attaques?
Le troupeau a été attaqué deux fois, oui. Une fois la nuit, une fois le jour. Comme quoi, le loup il s'adapte. Quand les troupeaux sont dedans, et bien après, il attaque le jour.
C'est la bergerie. Il y a toutes les brebis là. Il y en a combien?
Là, à ce troupeau, il y en a 450. J'en ai 220 qui ont mis bas au mois de juillet. Et donc, elles sont à part. On fait un agneau de qualité. Sur un beau département comme on a, il faut faire ça.
Changement d'atmosphère, on est sur le Cosmégen chez Daniel Katz. 9000 brebis ont été tuées cette année en France en 2015. Sur les 7,5 millions d'ovins que compte le pays, c'est bien peu. Mais l'impact psychologique des dégâts qu'ils causent sur une profession déjà complètement exsangue, lui, est très important. Bien sûr, le loup n'est pas responsable de la crise de l'élevage. La mondialisation économique, la concurrence avec la Nouvelle-Zélande, des prix toujours tirés vers le bas, voilà les vrais responsables du désespoir des éleveurs. Mais réclamer des mesures pour chasser l'animal est somme toute plus facile que de changer le système économique. Car le loup, rappelons-le, est une espèce protégée. La Convention de Berne, la directive Habitat, interdisent strictement de le chasser. Éradiqué au début du siècle précédent, le loup est réapparu en France au début des années 90. Un miracle pour ses défenseurs, une calamité pour les éleveurs. Il serait aujourd'hui environ 300, répartis sur 29 départements. Alors pour tenter d'apaiser les esprits échauffés, l'État a autorisé les tirs de prélèvement. Et du côté des défenseurs de la biodiversité, on se mobilise. 2500 personnes se sont rassemblées à Lyon ce 16 janvier pour dénoncer le non-respect des lois de protection de l'environnement. Défendeurs et pourfendeurs du loup s'étrillent à corps et à cri, car l'enjeu est de taille. Alors pour mieux comprendre, on va tout de suite retrouver Daniel Kietz à Galy sur le Cosmé-Jean.
Celle qui est derrière, vous voyez qu'elle veut déjà que je l'appelle. Elle attend la récompense.
Avec la grosse cloche.
Voilà. Elle va me suivre, on va partir devant, elle va nous suivre. Vite. Elle me suit à la voix. Elle me connaît, ça, et mon chien, c'est pareil. Elle connaît ça, mon chien. Un chien étranger, un chien de chasse, c'est pas pareil. C'est leur chien. Le chien, c'est son troupeau. Entre les brebis, le berger et le chien, on fait un corps. C'est un ensemble. Et les brebis, elles savent que je vais les amener à un bon pâturage. Elles font confiance, le suivant. On est agriculteur, éleveur de père en fils. Ça fait la troisième génération. Et mon fils s'installe avec moi aussi. On est un GAEC. Donc c'est un peu dans la continuité. Mais bon, il a fallu être vigilant pour ne pas se faire plus attaquer le troupeau, quoi.
Par le loup ?
Eh oui. Et vu la situation, j'ai demandé à passer mon permis de chasse. Donc je l'ai passé cette année au mois de septembre. Pour avoir la possibilité de défendre le troupeau. Si on veut continuer à vivre de notre métier, il faut arriver à défendre le troupeau, quoi. C'est vrai qu'on ne le voit pas. Pour l'instant, on ne voit pas le loup. Hein. Donc,
on part sur des chemins, c'est des chemins caillouteux.
C'est ce qu'on appelle la draille. C'est une draille qui date de très longtemps, quoi. Et moi, je vais m'en servir pour aller au col de Pergeret. Le col de Pergeret, on est à 4,5 km de l'exploitation et on va faire encore 2 km de plus. Et on va suivre toujours cette draille. On a des bêtes qui ont été grièvement blessées. Encore, il y en a qui ne sont même pas revenus au troupeau, elles sont toujours à l'infirmerie. Je leur ai fait à toutes une marque justement bien distincte pour savoir lesquelles c'est qui avaient été mordues par le loup. Donc celle-là, et bien... Comme on dit, le stress, elle ne retient pas le bélier, quoi. Elles ne feront pas d'agneau cet hiver. Oui, viens. Ça, c'est une meneuse, ça. On en a une dizaine, à peu près, qui viennent bien. Même si le berger ne les appelle pas devant, c'est toujours les mêmes qui conduisent le troupeau. Ils ont moins peur que les autres. Et c'est souvent justement celles-là qui se font presque le plus souvent attaquer par le loup parce qu'elles ont moins peur et elles sont plus à l'écart des autres. Vite. Les brebis, elles obéissent avec le chien, on arrive à les tenir.
Pars.
Les chiens dressés comme ça, ça n'a pas de prix. Il fait en sorte que les brebis restent bien sur la route.
Pars.
On se comprend avec le chien.
C'est bien.
On va faire une petite pause pour les brebis. On va un petit peu les laisser respirer là.
On a quitté la route.
On arrive complètement au bord des coteaux là. On voit la vallée de la Jonte d'un côté et juste après le col de Pergeret, c'est de l'autre côté, c'est le Tarnon. Le col de Pergeret fait la division des eaux. D'un côté c'est le Tarnon et de l'autre c'est la Jonte. Et pourtant elles vont se rejoindre au Rosier. Elles vont faire le tour du Cosse, hein. C'est pour ça qu'on dit le Cosmé-Jean, c'est une presqu'île. Il n'y a que par le col de Pergeret qu'on peut monter à l'Aigoual sans traverser un pont. Sinon il y a de l'eau qui fait tout le tour du Cosse. Bon, on va avancer, sinon on va se faire doubler. Elles le savent, vous, c'est comme moi. Elles ont compris. Viens ici, viens. Ibis. Avancez assez vite, parce que là, je crois qu'elle va se faire doubler. Si on veut que le chien et les brebis entendent. On va continuer de passer devant là-bas.
Oui.
Elle préfère rester dans le pré. Donc je suis obligé d'appeler assez fort pour qu'elle comprenne bien qu'on continue.
Le chômage. Bip, 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 bip. Ibis, Ibis,
viens là.
Hey, viens, viens. Ibis, Ibis, viens là. Ah, ah. Ibis, viens là. Bonjour.
Ça va, merci.
Oui, oui. On a fait une petite chasse à Cabrillac.
Vous avez vu quelque chose?
Un lièvre.
Mais ça s'est calmé, le loup?
Non, c'est pas fini. D'après l'entendre dire d'une dame qui est infirmière, il y a des chances que c'est bien un mâle et une femelle. Elle les a vus deux, un gros et un plus petit, et elle pense que c'est un couple. Ouais.
Ça va faire une meute, ça.
Et... Hippo.
Ouais, c'est pas fini, là.
Et puis, la ferme de... C'est pas aux Oubrés.
Aux Oubrés.
Voilà, oui, et oui. Ils menacent à partir, je crois.
Oui, oui, ils sont un peu découragés.
Je crois qu'ils ont mis les brebis à vanne. Hein.
Mais les agriculteurs qui vont arrêter à cause du loup.
Oui, oui. Non, mais ça va vider le pays, ça.
Ah, c'est sûr, hein.
C'est que le début. Moi, j'ai peur. Si on ne fait rien, d'ici quelques années, on va être attaqué de longue, de longue. Les chasseurs peuvent faire un peu le travail aussi, là. Hein.
Tuer un loup, ça,
c'est une amende.
C'est une amende, et puis ça coûte très cher. Hein.
Et voilà. C'est pas un crime, mais presque, quoi.
Moi, c'est ce que je demande. Hein. Nous, avec nos brebis, on ne le voit pas.
C'est pas évident non plus, même à la chasse, de voir le loup. Hein, parce que c'est un animal qui a une telle intelligence, une telle défense. Ça... Il se camoufle, mais c'est... Et puis il ne bouge pas. Je suis convaincu qu'un loup laisse passer les chiens, laisse passer les chasseurs, il reste tapis, il ne bouge pas.
Bon, je crois qu'on va, on va essayer de continuer, parce que mes brebis, elles commencent à se demander. Elles commencent à se demander où on va, là.
Allez,
merci, au revoir.
Hite. Tête tirée. Allez.
Si on se fait décapiter les troupeaux, moi je dis qu'on est menacé, oui. Des exploitations de taille suffisamment grande, on arrivera à s'en sortir certains, mais il va y avoir des troupeaux qui vont disparaître.
C'est à qui ?
Il faut surveiller qu'elles descendent bien toutes. Ça m'est arrivé qu'il y en ait qui montent dans les arbres après là-bas. Normalement, quand le chien va descendre, c'est que tous seront là.
Ibis ! Quel sap !
Elle arrive, mais elle n'est pas arrivée de là. Hein. Doucement ! Ibis ! Là. Sur le tour du Cosmijan, apparemment, il y a... Un loup qui se voit régulièrement vers Gatugira, vers notre secteur. Il y en a deux qui se voient plutôt côté vers Saint-Enémy, donc qui fait le fond du Causse, Carnac, le Bruel, la Volpilière, qui monte jusqu'à Nabrigas. Et vers le Pradal, apparemment, il y en a bien un autre. On s'aperçoit qu'on est vraiment entouré, quoi. Et on ne pensait jamais qu'on allait le revoir, quoi. On pensait que c'était quelque chose de définitivement éradiqué, quoi. Ils ont dû se donner le mot, ils sont partis des Alpes, ils sont arrivés sur le Cosmijan tous la même année, en 2015. Par contre, moi j'aimerais bien dîner maintenant. Mes brebis, elles sont contentes, moi je veux casser la graine. Quand on ouvre la musette, mais... C'est un bon moment, quoi. On sent les bonnes odeurs de ce qu'a cuisiné mon épouse. On se régale.
Vous avez préparé quoi, votre épouse?
Je vais le découvrir, mais il me semble que tout à l'heure, ça sentait bon à la maison. les attaques, à chaque fois, c'est du temps qu'on est à la maison, quand les brebis sont seules. Mais s'il faut rester avec les brebis nuit et jour, même quand elles chôment, parce qu'elles ne mangent pas, qu'elles sont à l'ombre sous les arbres, c'est invivable. Hein. On ne peut plus faire le travail de fenaison, le travail qu'on a à faire, on n'y arrivera pas, quoi. On n'a aucune possibilité de défense. Vous voyez ces moutons là, ils sont à quelques mètres de vous là. Regardez. Si mon chien y va, il en tue une là. Hein. Le chien, c'est qu'il est maîtrisé, le chien. Un loup, lui, il n'a pas de maître, il s'en fout. Il se sert.
Alors vous dominez le chien, le chien domine les brebis.
Voilà, c'est ça.
Et du coup, le loup, c'est un peu l'animal sauvage que personne ne domine et qui,
ouais,
par là...
Il ne domine rien, nous, voilà, ça c'est clair. Pour l'instant, c'est ça, ouais. Pour un berger, avoir quelqu'un qui soit dominant sur nous, ça c'est clair que c'est pas bien supportable. Ouais. Le loup, ça fait partie un peu des livres, de la légende, ça fait rêver aussi, ça fait rêver. Mais après, quand on est devant la réalité, ça fait moins rêver, quoi. Là, tout d'un coup, on comprend pourquoi les anciens, ils en sont débarrassés. Je sais pas si vous imaginez les brebis blessées avec les asticots qui se mettent dans les plaies. Le matin, aller soigner les bêtes comme ça, ça vous donne pas envie de vous lever le matin. Je dis pas que l'année prochaine, on les laissera pas dormir de vos dos. Mais seulement, comme on dit, la peur au ventre. Tout le matin, on se lève avec une boule au ventre. Hein. C'est un peu comme en ville le terrorisme. T'es. On est toujours à la merci d'être attaqué. Avec les falaises et les précipices qu'il y a, on peut avoir la moitié du troupeau qui meurt, hein, en une seule attaque.
Une démonstration de force sur deux jours en guise d'avertissement pour rappeler que le loup est une espèce protégée.
Personnellement, mon avis, il faut la carabine sur l'épaule. Si on le voit, on lui tire dessus. Et je mets tout mon espoir dans la solidarité paysanne. Terminée.
À Lyon, les manifestants exigent l'arrêt des tirs sur les loups. Le débat fait rage entre éleveurs et défenseurs du loup.
Le monde en a ras le bol maintenant et il veut se débarrasser coûte que coûte de cet intrus.
Près de 9000 brebis ont été tuées par des loups en 2015. Le quota d'abattage de l'animal a alors été relevé, passant de 24 en 2014 à 36 pour cette saison. Selon eux, l'État n'applique pas les lois de protection de l'environnement.
Il faut que les loups comprennent que s'approcher d'un troupeau, c'est mortel. C'est tout. Il pointe son nez, il se fait flinguer. Voilà.
C'est aussi simple que ça.
Fabrice Nicolino, vous êtes donc journaliste et vous êtes un bon connaisseur de la question du loup et un grand défenseur du loup. Pourquoi vous défendez le loup ?
Alors déjà, je comprends l'émoi des éleveurs. C'est sûr que quand on arrive sur un alpage et qu'on découvre des bêtes éventrées, c'est dur à encaisser. Néanmoins, je pense qu'il existe un droit supérieur, c'est celui de la vie sur Terre, celui de la biodiversité. La biodiversité, c'est un slogan très facile à employer, et Dieu sait qu'il l'est, du haut des tribunes. Il se trouve qu'on est confronté à un problème de taille en France, puisque le loup est revenu naturellement depuis ses refuges italiens. Il y a une vingtaine d'années, un peu plus, peut-être 25 ans, il a été éradiqué après une présence de plusieurs centaines de milliers d'années sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui la France. Donc l'homme s'en est débarrassé, on pense qu'il n'y avait plus aucun loup sauvage en France, disons, entre 1920 et 1930. Est-ce qu'on refait la même chose ? C'est grosso modo ce que réclament certains éleveurs. Ou est-ce que, ayant pris conscience d'un certain nombre de problèmes nouveaux, dont la disparition accélérée des formes de vie sur Terre, on prend au sérieux le mot de biodiversité et on cherche des solutions qui ne sont pas faciles, j'en conviens, qui passent sans doute par une sorte de pacte entre la société, parce que la société française, quand elle est interrogée sur le sujet, semble montrer qu'à 80%, elle est en faveur de la présence du loup en France. Donc, si la société est dans cet état d'esprit-là, eh bien, qu'elle cherche des solutions en accord avec les éleveurs. J'ajoute que si on ne fait pas ce travail qui est considérablement compliqué, eh bien, on ne pourra plus jamais dire un mot, nulle part dans le monde, à ceux qui se plaindront de la présence d'animaux qui sont parfois beaucoup plus embêtants que le loup. Je prends l'exemple des migrations d'éléphants en Afrique. Si vous êtes sur le trajet d'un troupeau d'éléphants et que vous avez 3 champs de manioc à défendre, c'est très compliqué. Il va falloir supprimer les lions qui sont emmerdants, il va falloir supprimer les tigres au Bangladesh et en Inde, bien sûr, il va falloir sacrifier aussi les requins, parce que les requins boulottent de temps en temps des surfeurs, et ainsi de suite. La biodiversité, c'est très contraignant. Mais la question posée, c'est une question philosophique, pour ne pas dire anthropologique. C'est la question de savoir si l'espèce humaine peut accepter le partage de l'espace sur cette Terre. Donc, la question est de savoir quel est le droit qui doit primer. C'est pas le loup nous fait chier, donc on lui fout une balle dans la tête. Il a été démontré dans plein de cas que la cohabitation est possible. Elle a un certain coût, bien sûr. Si vous voulez, c'est une question qui est strictement politique. Depuis le début que les socialistes sont au pouvoir, mais c'était vrai aussi avec la droite, hein, mais disons, il y a perpétuellement la recherche de dérogation qui permettrait de contourner définitivement et la Convention de Berne et la directive Habitat et faire en sorte que le loup ne soit plus considéré sur le territoire français comme une espèce protégée. C'est le but final de tout ça. Si c'est plus une espèce protégée, ça devient une espèce chassable, compte tenu du nombre de tireurs potentiels, il n'y aura plus aucun loup en France. On vit à une époque où la vie est menacée sur la Terre, où les biologistes du monde entier sont d'accord pour dire qu'il y a la 6e crise d'extinction des espèces, phénomène qui ne s'est pas produit depuis 65 millions d'années. C'est-à-dire depuis la disparition des dinosaures, 5e crise d'extinction des espèces. Donc on est face à un phénomène de nature tout à fait impressionnante. Et donc au nom de cela, au nom de la biodiversité qui n'est pas qu'un slogan, on peut raisonnablement dire il y a un droit qui doit s'appliquer. C'est compliqué certes, mais enfin on fait face à des situations qui sont nettement plus compliquées que la présence de 300 loups sur le territoire. Une voie peut être trouvée, une voie de compromis.
C'est toujours la même histoire, oh, oh. Depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme est loup, toujours la même histoire, oh, oh. Depuis que l'homme est loup, c'est toujours la même histoire, oh, oh. Depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme est loup, toujours la même histoire, oh, oh. Depuis que l'homme est loup. De l'homme des cavernes jusqu'au loup des temps modernes, par la route de la soie en passant par l'Égypte ancienne, toujours la même musique, toujours la même rengaine, toujours la même histoire écrite à l'encre de nos veines. Depuis Christophe Colomb et ses 3 caravelles, jusqu'au champ de coton, l'histoire résonne comme un gospel. De la destinée du tiers-monde à la condition ouvrière, la raison du plus fort est toujours, toujours la meilleure. De l'aube de l'humanité au crépuscule nucléaire, de la tour de Babel jusqu'au World Trade Center, de la cour des miracles au mirage des charters. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. C'est toujours la même histoire, oh, oh. Depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme est loup, toujours la même histoire, oh, oh. Depuis que l'homme est loup.
Et le débat autour du loup n'est pas près d'être terminé. Merci à Daniel Katz et à Fabrice Nicolino, que vous pouvez retrouver sur son blog Planète sans visa.
C'était Comme un bruit qui court. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter, où vous pourrez aussi nous laisser des messages, ça nous fera plaisir. Pensez aussi à vous abonner au podcast de l'émission et à faire courir le bruit sur les réseaux sociaux, que le bruit court. Et pour le plaisir de lire, une traduction d'un livre de courtes nouvelles d'Eduardo Galeano, Les enfants des jours. Un calendrier de l'histoire humaine traduit et édité par les éditions québécoises Luxe. Après les infos, ce sera La preuve par Z de Jean-François Zigel. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.